Tout à fait, hein, surtout quand l'épicentre et l'hypocentre en même temps se trouvent en zone plus ou moins marine. Donc on est dans le même cas de situation qu'il y a 2 ans. Maintenant, je crois qu'il y a des îles qui se trouvaient à grosso modo 300 km, 500 km au large de Santiago qui effectivement ont pris une première vague qui, semble-t-il, n'a pas causé beaucoup de dégâts, mais ils ont pris une première vague. Donc eux sont assez proches de la zone de sismique.
Jean-Daniel Rouillet, si on revient au tremblement de terre 8,8 sur l'échelle de Richter, c'est très rare cette magnitude ?
C'est très rare, mais l'échelle de Richter, on l'appelle l'échelle ouverte de Richter. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a eu des séismes de l'ordre de 7, 7,5, parfois plus grands. Et on ne sait pas jusqu'à quelle magnitude ça pourra aller. Il faut rappeler simplement que du côté de Los Angeles, la faille de Sant'Andrea, qui est sur le même axe, hein, c'est la même zone sismique, il me semble qu'il y a quelques années en arrière, ils ont pris quelque chose comme 7 sur l'échelle Richter et ils ont très bien résisté parce qu'ils étaient construits parasismiquement.
Il y a un élément de profondeur aussi, ça a tremblé très profond.
Justement, alors plus c'est profond, normalement, moins il y a d'effets en surface. Donc j'ai vu que c'est une profondeur grosso modo de 60 km. C'est relativement rassurant, entre guillemets, hein. Il y a des effets en surface. Mais on peut imaginer que si on avait eu du 8,8 à 5 ou 10 km de profondeur, je pense qu'une grande partie des villes de surface auraient été rasées. Là, on est beaucoup plus profond. Je sais pas, c'est une image que je vais donner, mais on peut imaginer qu'à Santiago, on a eu une correspondance, grosso modo, d'effet de 7, de 6,5 ou 7 sur l'échelle Richter.
Le Chili a déjà un précédent, zone particulièrement exposée.
Toute la zone est exposée, hein, depuis le fond du Chili jusqu'en passant par le Mexique et en remontant jusqu'aux États-Unis. Toute cette zone se trouve sur une zone de subduction, c'est-à-dire de contact de plaques tectoniques. Les plaques tectoniques, c'est donc comme des radeaux sur la mer. À un moment donné, ils se touchent, ils sont poussés l'un contre l'autre et à ce moment-là, il y a un des bords qui passe dessous l'autre. C'est ce qu'on appelle une zone de subduction. Et bien entendu que ça se fait très lentement et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je dirais, plus il y a de petits séismes, moins il y aura de gros. Donc le problème, c'est que souvent, il n'y a plus d'activité pendant 50 ans et puis tout d'un coup, la pression lâche et puis ça fait un gros séisme.
Alors plus de 120 morts aujourd'hui, le bilan n'est pas encore définitif. Entre les répliques et puis les éventuels tsunamis à venir, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller plus particulièrement dans les prochaines heures, dans les prochains jours ?
Écoutez, on part du principe que les répliques, normalement, sont de plus en plus faibles. Il y a des exceptions, mais normalement, sont de plus en plus faibles. Donc, il faut voir arriver, du point de vue de tsunami, il faut voir arriver la vague. Une fois que la vague aura passé ce qui est cette vague de départ, hein, de 8,8 en profondeur, qui a beaucoup d'effets en zone marine. Donc, une fois que cette vague aura passé, je pense qu'il n'y aura pas d'autres soucis à se faire. Par contre, les répliques, c'est toujours les mêmes. Les répliques, même si vous continuez à avoir du 6,6,5, c'est relativement important. Et bien entendu, que c'est toujours le même problème après les séismes. On l'a vu à Haïti, c'est retourner dans les maisons. Même si les maisons sont fissurées, normalement, la sécurité voudra qu'on n'y retourne pas. Et ça va causer des tas de problèmes d'accueil des gens en surface, où les mettre pour qu'ils soient en sécurité, etc., etc.